Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis, vous en avez l'habitude, toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Ciao Johan et buongiorno a tutti.
Alors mon cher Guillaume, on va faire un premier point après 8 journées de Serie A. On s'est dit que plutôt que de le faire club par club, pour pas être trop long et continuer dans nos formats courts, dans ce qu'on a décidé de faire, on allait faire quelques rubriques sur ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. En gros, voilà comment on vous présente ce petit point après 8 journées de Serie A. Guillaume, je te propose de commencer tout de suite par ta surprise positive. Alors on va plutôt parler d'équipe, vous allez voir on a des rubriques sur équipe et sur joueur. Là ta surprise positive du côté des équipes.
Alors écoute, mon équipe positive en surprise dirons-nous, c'est Frosinone.
Ah, on a la même.
Ah t'as la même. Bah écoute, et on s'est pas consulté avant,
évidemment.
Comme d'habitude, on essaie de maintenir justement la surprise. Écoute, Frosinone, parce que déjà, j'étais curieux de savoir où on était un peu Di Francesco. Mmh. Tu t'en souviens, il était un peu sur une période compliquée quand même.
Ah oui.
Depuis la Roma, et voilà, il a eu plusieurs expériences difficiles et on avait un peu l'impression d'un entraîneur en perdition. Et là, en tout cas, je le vois quand même un entraîneur qui a été capable de se remettre en question. Alors, j'avais lu quelques interviews où vraiment il disait voilà qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il était prêt à revenir, qu'il avait beaucoup travaillé et en tout cas ce que je vois là pendant ces 8 premières journées, je vois quand même un entraîneur qui voilà qui a su se remettre en question justement et qui vit quand même avec voilà alors, c'est pas non plus révolutionnaire mais voilà j'ai l'impression d'avoir un entraîneur moderne et une équipe qui est vraiment en adéquation avec ses propositions. Et on parle quand même d'un club, mon cher Johan, qui est huitième de Serie A. On rappelle qu'il est promu, hein, Frosinone.
Ouais, ouais.
Qui est promu, et c'est 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. On peut rappeler aussi qu'ils avaient embêté Naples, tu te rappelles, lors de la première journée. Donc vraiment, c'est une sorte d'évidence, comme toi justement, je présume, pour être une équipe surprise, parce que je vois une équipe qui joue au foot, je vois une équipe qui est euphorique, qui a l'enthousiasme, et un public aussi qui est en adéquation avec son équipe et son entraîneur. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment tout match, et pour l'instant, ça fait une équipe qui est huitième au classement et qui a quand même 12 points. Et si tu regardes le classement, Empoli qui est 18e, on a 4. Donc avoir déjà 8 points d'avance sur le premier relégable après 8 journées, je pense que même à Frosinone, ils n'y auraient pas cru, mon cher Johan.
Et sachant qu'ils ont déjà joué le Napoli, tu l'as dit, l'Atalanta, la Fiorentina et la Roma. Donc il y a quand même eu 4 matchs assez costauds pour Frosinone. Je suis évidemment d'accord avec toi, j'avais choisi aussi cette équipe du Latium, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Italie et notamment qui prennent l'A1 pour descendre toute l'Italie, c'est entre la Rome, enfin entre Rome et Naples pour le coup. C'est pas une équipe habituée à la Serie A. Généralement, elle fait un passage assez rapide. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ceux qui nous présentaient Di Francesco comme un imbécile, notamment à Rome. Tu sais que malgré une demi-finale de Ligue des Champions, il y a des gens qui t'expliquaient que c'était les joueurs qui avaient tout fait et que lui, il servait à rien, il était nul en fait. Ce qui était très dur et très peu respectueux du travail qu'il avait effectué. Notamment, souviens-toi aussi à Sassuolo avant, parce que quand la Roma va le chercher, c'est Monchi qui le ramène de mémoire de Sassuolo et qui le veut parce qu'il a fait du très bon travail à Sassuolo. C'est l'équipe la plus jeune du championnat. J'essaie de trouver là parce que il y a le fameux CIES, mon cher Guillaume, qui a fait un classement mondial de l'âge sur le terrain par club
avec sa lettre hebdomadaire,
hein. Exactement, et tu vois là pendant que je parle, je suis évidemment en train de meubler pour retrouver le classement. Et donc si on prend le top 4, hein, puisque le top 5 est une aberration linguistique, il n'y a qu'un top 4. Je l'appelle le top 4 plus Ligue 1 si on veut mettre la Ligue 1 dedans. Dans le top 4, c'est la troisième équipe la plus jeune, derrière Valence et Burnley en Première Ligue. Donc voilà, on a affaire à une équipe qui est assez peu expérimentée, avec des jeunes joueurs de talent, et ça plaît à Di Francesco, qui n'hésite pas à leur faire confiance, les Soule Barnecha de la Juve. Il y a Reynier aussi, grande promesse arrivée du Brésil au Real, et qui a pas du tout confirmé depuis, mais qui va peut-être pouvoir se relancer en Italie. Et puis tu sais, Guillaume, il y a les fameux expected goals. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé de ça.
C'est la première fois, figure-toi.
Bah, tu sais que tu te souviens du Cagliari de Maran, Rolando, Rolando Maran, je crois.
Qui avait surperformé.
Qui était quatrième à un moment donné au mois de décembre. Ouais. Je ne rappelle plus exactement de la saison, mais on avait parlé dans Calcio PP, donc c'était peut-être 2018-2019, quelque chose comme ça. Ou 2019-2020 d'ailleurs. Là, ça ne surperforme pas vraiment, puisqu'ils sont septième équipe au total des expected goals. C'est une équipe qui se crée des occasions, qui t'agresse haut. Napoli, Sassuolo peuvent en témoigner. Le 4-3 classique de Di Francesco. Et c'est une équipe, moi, qu'il me plaît de suivre parce que je prends toujours du plaisir. Et en plus, ils ont eu une blessure importante avec Arui qui avait fait un début de saison magnifique. Donc voilà, c'est logique de récompenser cette équipe de Frosinone.
Peut rappeler, Johan, au passage, que Di Francesco bosse aussi, enfin, arrive après Fabio Grosso, hein,
bien sûr,
qui aujourd'hui est à Lyon, et qu'il a récupéré tout le travail aussi en amont effectué par Grosso. Tu parlais des jeunes, le directeur sportif et Grosso à l'époque, il y a un an et demi maintenant. On rappelle que déjà, ils n'étaient pas programmés du tout pour monter en série à la saison dernière. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais Grosso y est parvenu. Et le projet jeune, ça a démarré maintenant depuis 2 ans et ça fonctionne notamment grâce à Fabio Grosso.
Et il y a notamment pas mal de jeunes qui sont arrivés cet été. Hein. Je parlais des joueurs de la Juve, de Reynier, évidemment, le quatrième, je l'ai perdu.
Mais il y a une continuité, Ocoli, en tout cas. Il y a une continuité.
Ocoli, qui est un bon défenseur aussi. Donc, c'est vraiment intéressant à suivre. On verra jusqu'où ils peuvent aller, mais combien de temps ils peuvent tenir cette cadence. Sans doute pas toute la saison, mais projet intéressant. La surprise négative, maintenant, mon cher Guillaume.
Écoute, Johan, est-ce qu'on va avoir la même ou pas? C'est ça la
Je
la
pense,
question.
Il y a des chances qu'on ait la même.
Et, bah écoute, est-ce que ton équipe a un entraîneur français?
Ah non.
Non? Ah bah non, bah moi c'est le Napoli quand même. D'accord. Je pouvais pas. Alors certes, on en a déjà parlé dans un podcast, pour ceux qui l'ont pas écouté, qu'on avait fait spécialement sur le Napoli pour parler un peu des problèmes en début de saison, mais forcément en surprise négative parce que, alors que l'équipe soit programmée ou non pour regagner le titre, et ça peut discuter. Voilà, quand côté champion d'Italie, forcément, tu pouvais t'attendre à un autre début de saison. Les difficultés étaient prévisibles, Johan. On a discuté toi et moi, Rudy Garcia ou un autre, ça aurait été forcément compliqué de passer dans la presse Spalletti, tellement son équipe a marché sur l'eau et a connu une saison, on va dire, bénie des dieux. Mais voilà, c'est certain que de voir le Napoli déjà relégué à 7 points de la première place et occupé par l'AC Milan, de voir une équipe qui est plus euphorique, de voir une équipe, de voir un vestiaire, on le sent, qui est fragilisé. Là, on enregistre, on est le 11 octobre, Johan, on ne sait pas vraiment si Rudy Garcia sera encore là à la reprise de la Serie A. Et on sent bien que ça tente beaucoup, beaucoup, beaucoup à Napoli. Donc, voilà, on pouvait se rendre à la difficulté évidente, mais c'est vrai que là, on a l'impression que tout part un peu en éclat et que, voilà, tu sais comment ça se passe à Naples. Hein. Quand la saison démarre mal, c'est pas évident, on va dire, de redresser un peu la barre. Et là, oui, il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. De Laurentiis qui maintient sa confiance, mais finalement qui tacle quand même Garcia en public, qui confie qu'il avait consulté beaucoup d'entraîneurs cet été, dont Luis Enrique, Thiago Motta, Vincenzo Italiano, et puis à la fin pour se rabattre sur Garcia. Donc bon, c'est pas non plus pour le crédibiliser. Voilà, on a des joueurs qui sont pas contents de sortir. On a un Di Lorenzo qui essaie de rassembler un peu ses troupes, mais qui est pas forcément entendu. Donc voilà, on a une équipe vraiment qui est en perdition et voilà, forcément, moi c'est mon point négatif de ce début de saison. Alors en espérant que le Napoli parviendra quand même à redresser la barre et aussi à se qualifier en huitième de finale de C1, hein, parce qu'on sait que c'est un objectif du président De Laurentiis qui a fixé le top 4 en Serie A et un minimum de quart en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses positives dans ce début de saison du Napoli. Donc, voilà, je l'ai mise dans ma surprise, entre guillemets, équipe négative.
Alors, j'ai pensé évidemment au Napoli, parce que c'est logique. Sauf que pour l'instant, ils sont à 3 points de la 3e place. Et que, en fait, le terme de surprise, ça dépend de tes attentes aussi, tu vois. C'est forcément, et ça, c'est propre à chacun. Moi, je n'attendais pas du Napoli qu'il soit rapidement en lutte pour le titre, parce que les changements, parce que. En fait, il faut quasiment reprendre le podcast qu'on a fait, hein, Guillaume, sur le Napoli.
Oui.
On vous invite
oui.
vraiment à l'écouter, parce qu'on ne pourra pas être aussi complet que ce qu'on a fait en une demi-heure, je crois, à peu près. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que. Bon, moi, je l'ai déjà dit, la communication de Rudy Garcia, j'ai du mal avec. Il y a eu des passages où je ne comprenais pas trop, là, ce qu'il expliquait. La nervosité des joueurs, c'est problématique pour Garcia, et donc ça veut dire quelque chose, mais c'est aussi c'est problématique sur le comportement des joueurs. Les changements en cours de match, on a beau pas être des techniciens, on a le droit de trouver ça surprenant aussi. Voilà, sortir Osimhen quand tu dois marquer, des choses comme ça, même si tu dis que tu as un effectif de qualité, j'ai du mal avec ça. Par contre, c'est pas Garcia qui fait rater des pénalties à Osimhen, c'est pas Garcia qui fait que les joueurs ne mettent pas assez de buts par rapport à ce qu'ils créent. Et finalement, comme on l'a dit dans le podcast sur l'Inter, Guillaume, quand on a parlé rapidement des buts de saison de l'Inter, le podcast précédent, bah quand tu prends les valeurs et des stats avancées en termes de production, bah le Napoli, c'est l'équipe qui devrait avoir marqué le plus de buts et c'est l'équipe qui devrait être en tête du classement sur la production. Alors, le jeu n'est pas aussi flamboyant, mais comme on l'a dit dans le podcast, pour moi, c'est inconcevable de comparer avec la saison dernière. Bref. Je passe rapidement sur le Napoli. Donc, j'ai pensé, mais tout ça m'a fait dire que ça ne pouvait pas être le Napoli. Et donc, moi, j'ai mis la Roma parce que la situation est encore plus compliquée. Hein. 10e avec 11 points, avec un calendrier extrêmement favorable. Ça m'a fait pencher aussi du côté de la Roma. Tu as joué beaucoup de clubs qui sont amenés à être dans le bas du classement, des promus, des clubs qui seront en bas du classement comme la Salernitana. C'est extrêmement décevant. Il n'y a toujours pas de jeu, mais ça, ce n'est pas une surprise finalement. on parlait de communication avec Rudy Garcia, José Mourinho, c'est 10 tons au-dessus en termes de d'incompréhension quand il te dit que l'effectif n'est pas expérimenté, c'est le troisième le plus expérimenté de Serie A. Il y a peu de matchs maîtrisés, il y a des matchs qui sont passés totalement à côté, il y a des joueurs qui ne sont pas valorisés. J'arrête là pour la Roma, je vais faire très court, mais je ne mets pas la Lazio. Par exemple, tu vois, pour moi, il y avait Naples, Roma, Lazio dans la discussion. Mais Lazio, on savait très bien aussi, tu vois, quand je parlais d'attente qu'on pouvait avoir, avec la Ligue des Champions, c'était certain que la Lazio allait lâcher des points. Et en plus, eux, ils avaient un calendrier compliqué. Ils ont joué plein de gros à l'extérieur, etc. C'était d'ailleurs une des plaintes de Sarri, hein, qui est un chouineur comme Mourinho, très désagréable. Mais avec le calendrier de la Roma, c'est pas possible. 10e avec 11 points, c'est vraiment pas bon.
Tu sais, Yoann, Mourinho est quand même très malin dans sa communication. Alors, on le connaît depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais tu sais, la scène où il amène devant les caméras, c'est D'Alessio, c'est le jeune D'Alessio. Ouais. Alors que bon, quand ça se passe mal, généralement Mourinho soit oublie ses conférences de presse ou soit ne se présente pas après le match.
C'est ça.
Et quand tout va bien, il est encore capable de se mettre, on va dire, l'environnement dans la poche. Alors c'est évidemment que c'est une belle scène. Hein. On sent bien que le jeune D'Alessio est très ému, il est content d'être là. Mais tu vois, c'est du Mourinho tout craché.
Ouais,
c'est très populiste, c'est très.
C'est de la manipulation.
Exactement, c'est très bien qu'avec cette scène-là, les supporters vont adorer. Hein, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a beaucoup tourné. Mourinho est magnifique, comment ne pas aimer Mourinho, regardez ça, et il y a encore des gens qui osent le critiquer. Et rien qu'avec cette scène-là, il arrive à faire oublier tout le reste.
Ouais.
Et je trouve ça assez dingue qu'en 2023. Alors, la scène, encore une fois, elle peut être belle, je le conçois. Hein.
Ah, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'analyser pourquoi il fait ça.
Exactement. Il fait ça. Alors, c'était après une victoire en Europa League, hein, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, il sait très bien que cette vidéo va tourner et que ça va lui mettre un peu de crédit dans la poche. Voilà, c'est du Mourinho dans le texte. Et quand ça se passe mal, on l'a vu après le match face au Genoa, qui était probablement le plus éclatant, où il dit certes, c'est un mauvais match, j'ai mes fautes, mais n'oubliez pas que ce club-là n'avait jamais fait de finale européenne de suite dans son histoire. Voilà, en fait, tout dépend du
résultat. Ce qui factuellement est vrai, mais t'es pas obligé de le rappeler à chaque interview, en fait.
Voilà, donc je trouvais ça, c'est le côté un peu sourire, parce que je me dis, mais en fait, il a pas changé, il arrive encore à se mettre dans la poche des supporters et tout un environnement avec à coup d'éclat sur des petites scènes comme ça.
Guillaume, ton équipe plaisir.
Alors, mon équipe plaisir, Johan, elle a joué en dernier. Avant, c'est très intéressant, c'est la Fiorentina.
Bon, on a encore la même.
Après, il y a forcément des évidences pour le
bien
coup.
Sûr.
Mais écoute, tiens, commence, Johan. Dis-moi un peu ce que tu penses de la Fiorentina de Vincenzo Italiano. On le rappelle, qui est troisième au classement. C'est un début de saison, surprenant en termes de rendement, parce que c'était compliqué d'imaginer la Fiorentina à 17 points après 8 journées, à égalité de points avec la Juve, et seulement à quel point du leader. Voilà.
En ayant joué l'Inter et le Napoli à l'extérieur. Parce que
en plus.
Quand on parle de tout ça, il faut aussi remettre avec le calendrier, parce qu'avec 8 matchs, le calendrier a forcément une influence sur les performances de l'équipe, parce que tu n'as pas joué encore tout le monde. Moi, ce que j'adore, et vraiment Italiano, je le dis depuis Spezia, c'est vraiment un entraîneur que j'adore parce qu'il valorise ses joueurs, parce qu'il mise sur le jeu, parce qu'il a envie que les gens se divertissent au stade et encore plus qu'à la Spezia, qui n'est pas forcément une énorme ville de foot. À Florence, tu as tellement de possibilités culturelles, soirée après soirée, de possibilités de piocher dans toutes les formes d'art qui composent cette ville de Florence, qui a une richesse culturelle extraordinaire, que pour faire venir des gens au stade, même si c'est une grande ville, même s'il y a plein de passionnés, que la Curva Fiesole, elle sera pleine quoi qu'il arrive, mais le reste des gradins, il faut vraiment emmener les gens à travers le spectacle. Et c'est là où la Fiorentina et Rocco Commisso ont tout compris, c'est d'avoir choisi l'entraîneur qui amènera ce spectacle-là. Et vraiment, ce que j'aime, c'est de voir que les joueurs sont valorisés par le système, que le jeu est bon, qu'un Bonaventura retrouve la sélection. C'est quand même incroyable.
Ça, c'est vrai.
Se dire qu'à 34 ans, il retrouve la sélection. En plus, c'est un choix C'est pas un choix par défaut, il manque plein de joueurs. Hein. Il y a des milieux de terrain qui n'ont pas été appelés pour faire place à Bonaventura, tu vois. Donc, non, vraiment, je suis vraiment fan d'Italiano, et qui parfois peut paraître... moi, je ne sais pas s'il arrive à profiter des matchs. J'ai l'impression qu'il est toujours... qu'il n'est jamais vraiment content, jamais souriant, toujours inquiet. Alors que son équipe joue bien et... Parfois, j'ai envie de me dire, mais j'aimerais qu'il prenne plus de plaisir lui aussi au bord du terrain parce que son équipe joue vraiment bien, tu vois. Mais vraiment, cette équipe de la Fiorentina est vraiment une très, très belle équipe. Et c'est pour les gens qui nous écoutent, qui regardent peu de football italien ou un match par semaine ou deux matchs par semaine, essayez de regarder de temps en temps la Fiorentina parce que vous allez vraiment passer un bon moment.
Et sur le côté italien ne profite pas, je pense aussi, ça fait penser à la scène après le coup de sifflet final de Fiorentina-Atalanta, à mi-septembre, quand c'est avec Kwame que Italiano va le voir en leur reprochant quelque chose et Kwame lui dit « Non mais c'est bon, ça va, le match est fini, on a gagné ». Et tu sens qu'Italiano est vraiment en tension, quoi. Il vit tellement le match et il veut que la prestation… Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne regarde pas… Bah, tu l'as bien dit… Lui, le résultat, évidemment, est important, mais lui, c'est vraiment le contenu. Et même s'il y a une victoire derrière, il est toujours perfectionniste. Donc, chaque détail à améliorer, à progresser, tu as l'impression qu'il veut le corriger tout de suite, même après le coup de sifflet final, déjà pour le match d'après. Donc non, évidemment, sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. C'est une confirmation quand même de l'entraîneur Vincenzo Italiano. On peut rappeler Johan qui a été tout proche du Napoli cet été. Que De Laurentiis y a renoncé après avoir discuté de manière très positive d'ailleurs, parce que les relations sont très cordiales avec Joe Barone et Rocco Commis, les dirigeants de la Viola, avec qui voilà il y a eu des discussions, et à la fin De Laurentiis a préféré dire non, voilà, pour pas froisser aussi cette amitié qui existe entre Commisso et De Laurentiis, mais en tout cas voilà, ça prouve aussi que la cote de Vincenzo Italiano augmente en Italie et c'est légitime parce que il fait un peu partie, tu sais, Johan, de nouveaux courants de pensée ou de, tu vois, les Deserbini, les Farioli que toi tu connais bien. Enfin, tu vois, il est un peu dans cette lignée-là, Italiano, et ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien de voir des entraîneurs qui réfléchissent comme ça, qui pensent comme ça. Et surtout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Johan, les supporters demandent ça. Les supporters ont envie d'aller au stade en s'amusant. J'en vois quelques-uns à la Roma, alors en minorité, mais j'en vois qui se plaignent quand même de.
Bien sûr.
Ils se déplacent à l'Olympico et ils voient une équipe qui joue pas forcément au football. Évidemment, alors c'est une plus grande majorité, mais la Juve, avec les supporters, voilà, qui aimeraient avoir plus de jeux et qui reprochent à Allegri, alors ce manque d'ambition, mais ça, c'est l'éternel débat. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, le public italien, et même étranger qui adore l'Italie et qui est supporter d'une équipe italienne, a besoin vraiment de se faire plaisir au stade. Et quand tu vas voir la Fiorentina, quand tu regardes la Fiorentina, tu te fais vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on sent qu'Italiano, voilà, il y a eu une période d'adaptation qui est normale. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Iconi qui m'avait dit que Italiano était vraiment un puits de culture et de science, tellement il travaillait en amont ses matchs et tellement il voulait s'enrichir culturellement dans ce sport, parce qu'il estime qu'il est là toujours pour apprendre. Et aujourd'hui, vraiment, on arrive à une symbiose entre l'équipe et Italiano qui arrive quasiment à la perfection. Alors, il y aura forcément des choses à corriger, parce que tu l'as dit, il y a 8 journées et il y a encore beaucoup de temps. Mais en tout cas, sur ce début de saison, on voit une Fiorentina qui s'est perfectionnée et un entraîneur, une équipe vraiment qui marche à la perfection. Et vraiment, c'est vraiment voilà, l'équipe plaisir. Tu vois, là, quand tu m'as dit équipe plaisir, pour moi, tout de suite, j'ai pensé à la Fiorentina de Italiano.
Guy, on va passer à l'équipe ennuyeuse. Je vais commencer. J'en ai deux. Moi, j'ai un duo. Je n'ai pas su départager les deux équipes. Et c'est les deux équipes d'une même ville. On va aller à Turin. Sans surprise, la Juve. Pas de jeu. Des prestations catastrophiques, j'ai en tête évidemment parmi les plus récentes, hein, mais Lecce à l'Atalanta, c'était vraiment ignoble à voir. Il n'y a qu'un match par semaine, et donc tu peux t'attendre quand même à avoir un peu plus de travail, parce que le truc de l'année dernière, de on joue tous les trois jours, on n'a pas le temps de travailler, Bah là, ça tient plus. Donc, on est censé voir des améliorations en termes de football. Sauf que ça, c'est dans notre esprit où on est encore très optimiste. On se dit peut-être qu'il peut faire évoluer ses méthodes, sa vision. Et ben, en fait, non. La communication, elle est catastrophique. Quand il vous dit que quatrième, c'est faire une bonne saison, que l'objectif, c'est d'être dans les quatre premiers. Non, non. L'objectif de la Juve, c'est de lutter pour le titre. T'as une compétition à jouer cette saison. Donc, non, non, tu dois pas être quatrième, tu dois être premier. Ou si, en tout cas, si t'es pas premier à la fin de la saison, tu dois avoir lutté pour le titre jusqu'à la fin. Le côté de la Juve dans un nouveau cycle, ça fait 3 ans qu'ils nous sortent le truc de nouveau cycle alors qu'ils ont un effectif de malade mental. Évidemment, le côté tifosi, tu l'as évoqué. Moi, j'ai encore en mémoire contre Lecce, à la 38e minute, ça commence à siffler parce que tu ne crées pas d'occasion contre Lecce. Et la deuxième équipe, c'est le Torino parce que j'en peux plus. Parce que, en fait, ça fait. De principe, j'aime bien Juric. Mais là, je trouve que plus les semaines et les mois avancent, plus il s'éloigne de soi-disant son maître à penser Gasperini. Que le côté, je balance des longs ballons sur l'attaquant et on joue les deuxièmes ballons. Quand tu as fait venir des mecs comme Samuele Ricci, comme Vlasic, comme Radonjic, avec tous les défauts qu'il a, comme Tamese, comme Duvan Zapata, non, non, tu dois proposer autre chose. Tu as Buongiorno en défense, tu as Pers Ruurs aussi en défense, le néerlandais qui vient de l'Ajax. Non, non, tu dois proposer autre chose. Me fais pas croire que Frosinone peut jouer ce type de football-là avec les joueurs qu'ils ont et pas le Torino, tu vois, si on veut vraiment faire un peu côté populiste, tu vois, voilà. Côté simpliste, sauf que le football, c'est pas comme ça, ok, mais je trouve que là, on a que les mauvais côtés du jeu dynamique et du jeu agressif et physique et pas du tout le reste, en fait. Je regardais les classements en termes d'XG, c'est la quatrième pire équipe de Serie A, ils ne se créent pas d'occasion alors qu'ils ont des joueurs vraiment de talent devant. Donc non, non, vraiment le Torino Juric, moi c'est zéro plaisir.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Et le derby, hein, le derby qui a été vraiment
catastrophe.
Il y avait rien du tout. C'était vraiment. Alors après, il a reconnu ses fautes, hein, mais c'est pas possible que.
T'avais deux équipes qui jouaient pas, donc le Torino était bien pire que la Juve, mais le match il était mauvais en fait.
C'était très très compliqué. Alors écoute, moi de mon côté, pour changer un peu, alors évidemment que j'avais la Juve, mais ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a souvent discuté, mais je voulais quand même toucher un mot sur l'Udinese. Parce qu'alors évidemment, tout à l'heure, tu l'as dit, ça dépend aussi des attentes qu'on a. Et honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'attentes sur l'Udinese, mais c'est vraiment catastrophique, Ivan. Honnêtement, cette équipe est en perdition depuis quand même quelques saisons maintenant. Et attention, parce qu'elle flirte avec la zone rouge, hein, elle est 17e. Elle a que 5 points au compteur. C'est déjà 3 défaites, 5 nuls. Elle n'a pas gagné un match. Sotil, honnêtement, j'ai quelques doutes sur son travail. Voilà, même de certains échos. Voilà, je pense même qu'un changement quand même peut-être ferait du bien à l'Udinese, même tu sais, pour un électrochoc, parce qu'on sent bien que ça patine depuis longtemps maintenant. Mais voilà, c'est vraiment une équipe, tu sais, qui même pas. Tu as le sentiment d'appartenance, parce que l'Udinese, ça reste quand même un club important en Italie. C'est un club qui a eu des grands joueurs. C'est un club qui est en Europe. Ça reste un grand nom de la Serie A. Et j'ai l'impression que maintenant, elle est tombée dans une espèce de banalité. Voilà, on banalise un peu les résultats, alors que de voir l'Udinese 17e et ne pas avoir gagné un match. C'est la seule équipe, l'Udinese, à ne pas avoir gagné un match avec la Salernitana, avec Cagliari. Donc c'est assez triste. Et vraiment, voilà, alors c'est certain que je m'attendais pas à grand chose, mais voilà, je voulais aussi souligner quand même, toi, mettre un niveau d'alarme sur un grand nom de la Serie A qui est vraiment en perdition. Et tu sais, j'ai l'impression que Pods oublie un peu que l'Udinese est là et que ça peut aller très vite. Hein. On a vu des grands clubs qui sont redescendus, on a vu la Samp la saison dernière, on a vu le Genoa il y a 2 ans. Alors le Genoa qui est revenu cette saison avec Gilardino, mais c'est pas parce que t'es un grand nom italien que voilà, tu peux pas risquer aussi la relégation. Voilà, et c'est une équipe vraiment en plus qui est ennuyeuse. Voilà, je trouve ça dommage et attention.
C'est un peu ces équipes ultra physiques, quoi. Ils ont des Golgoth, mais ça va vite, c'est puissant, ok, mais.
Il y a
un vrai problème de finition aussi avec le départ de Beto. Tu vois, ils ont 4 buts marqués. En expected goals, ils sont à 11 quasiment. Donc, tu vois, la différence, elle est abyssale. Ils n'arrivent pas à marquer un but. Rappelons que Deulofeu aussi, qui est ton meilleur joueur, est blessé. Donc, tu as perdu beaucoup sur le secteur offensif. Mais oui, oui. Puis attention, hein. OK, ils ont joué Juve, Fiorentina et Napoli. Mais ils ont joué aussi Salernitana, Frosinone, Cagliari, Genoa, Empoli.
Ouais, ouais.
En compte, ils ont joué 3 promus, plus Empoli et la Salernitana. Donc, attention, hein, c'est...
Et tu sais que, qu'en novembre, ils vont jouer le 4 l'AC Milan. La semaine d'après, ils reçoivent l'Atalanta et après, ils vont à Rome. Et 2 journées après, ils jouent l'Inter. Donc, vraiment, attention à l'Udinese. Et voilà, on sent que le banc de Sotil est, voilà, est comment dire, agité. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tient. Donc ça peut surprendre aussi parce qu'on voit des clubs qui mettent en cause leur entraîneur avec des résultats, on va dire, un peu meilleurs. Là, l'Udinese est vraiment, voilà, je voulais pas, tu vois, banaliser un peu le fait que, bah, qu'ils soient aussi bas dans le classement, et, parce que ça reste quand même un grand club d'Italie. Et je trouve ça assez triste de les voir naviguer comme ça dans des eaux troubles, dans la différence, on va dire, un peu générale.
Guillaume, ton joueur du début de saison, alors, on a formulé ça un petit peu différemment tous les deux. Toi, tu avais mis joueur surprise. Moi, je me suis concentré sur les recrues. Quel est ton joueur surprise?
Alors écoute, mon joueur surprise, c'est Andrea Colpani.
Ah,
Andrea Colpani, mais dis pas que t'avais le même quand même.
Non, mais figure-toi, juste un tout petit instant promo. Je crois que c'est en début de saison dernière, donc pas cette saison, je l'avais mis dans mes, je sais plus si j'en ai mis 10, 15 ou 18 joueurs à suivre de la saison sur le site de RMC Sport.
Ah.
Jeunes joueurs à suivre en Europe.
Eh ben écoute, voilà, j'aime beaucoup Colpani, on rappelle, hein, Monza, 4 buts déjà depuis début de la saison, dans une équipe d'ailleurs qui avait mal commencé mais qui s'est bien repris, et d'ailleurs ouais. Palladino qui est un entraîneur vraiment capable de se renouveler aussi, hein, dans ses ouais. idées de varier, donc on pourra en parler dans un
podcast. Tu vois, autre disciple de Gasperini par rapport à Juric, mais football différent aussi. Hein.
C'est vrai, totalement. Mais il mériterait un focus aussi, Palladino, ouais. parce qu'il fait quand même du bon boulot. Hein. Mais ouais, voilà, Colpani, parce que j'aime beaucoup ce profil de joueur. Il a une course atypique, mais ouais, il est capable de les redoubler. Il a le dribble facile, il a le sens du but. Voilà, c'est un joueur qui est complet, qui est décisif et qui me plaît beaucoup. Donc, je suis curieux de savoir comment sa saison va se poursuivre, hein, s'il est capable de réitérer justement ce niveau de performance. Mais voilà, il a 24 ans, hein, donc il est encore assez jeune, Johan. Et il assume aussi ce rôle de leader malgré son âge dans le vestiaire de Monza. Donc ouais, c'est une grosse surprise pour moi. Et il affiche quand même un niveau qui est bon pour la Serie A. Voilà, tu pouvais aussi te demander s'il était capable de s'imposer dans une équipe comme Monza qui avait fait quand même une belle saison la saison dernière. Et pour l'instant, il le prouve. Donc oui, voilà, j'ai mis Colpani dans mon joueur surprise de la saison.
Très bon choix, j'aime beaucoup ce joueur également. Donc moi, je me suis concentré sur les recrues. J'ai longtemps hésité entre un joueur de l'AC Milan et de la Roma. J'ai pris Lukaku, parce que mine de rien, c'est 7 buts en 8 matchs joués avec la Roma, donc bon, ça commence à peser un petit peu aussi. Il transforme le visage de l'équipe, non pas à travers le jeu, enfin c'est pas un... Comment dirais-je ? C'est pas quelqu'un qui va illuminer le jeu. En fait, j'ai hésité avec Reinders, qui lui, pour le coup, je trouve, illumine le jeu du Milan. Lukaku n'illumine pas le jeu du Milan, mais il donne de la certitude à ses coéquipiers. Il donne de la sérénité. Maintenant, ils se disent « Ok, on a Lukaku devant. Quand on est en difficulté, on balance un long ballon. On sait qu'il va faire la différence. On sait que devant le but, il va marquer des buts. » Tout ça donne de la confiance à ses coéquipiers. Il est évidemment très compatible avec Mourinho parce que le jeu de Lukaku, c'est comme Conte. Hein. Alors Conte et Mourinho n'ont pas forcément tout à l'identique dans la façon de voir le football, mais le fait de s'appuyer sur un attaquant fort et de vraiment maximiser le jeu autour de lui, ça, c'est vraiment leur truc. Le côté un peu leader aussi sur le terrain qui lâche rien. Voilà ce qui m'a fait choisir un peu Romelu Lukaku dans une équipe qui avait besoin de ce type de joueur là même si sur ma sensibilité propre de football j'aurais plutôt mis Reinders. Guillaume, t'as ton joueur surprenant mais plutôt négativement pour conclure ce podcast.
Écoute, alors d'ailleurs, en parlant de Ragnar, c'est le seul joueur qui a été titularisé en Serie A par la Séville dans tous les matchs. Ouais. Johan, il a joué les 8 matchs, donc ça va aussi dans ton sens. Écoute, moi, c'est une recrue un peu décevante. Alors, c'est évidemment très tôt pour tirer des bilans, mais j'avoue, je m'attendais un peu mieux de Samy Chukwueze à Milan, Johan.
Ok.
Évidemment, c'est un joueur de rupture. On le voit dans l'un contre un qui il est capable de faire la différence, mais je le trouve encore un peu trop brouillon. Et c'est vrai qu'il avait été accueilli en grande pompe du côté de Milan. Donc, alors voilà, c'est pas un bilan définitif évidemment. Ça fait 8 journées. Donc, mais comme on fait un podcast
oui,
bilan,
bien sûr, bien sûr. Voilà, on n'est pas en train de dire que c'est des mauvais joueurs.
Bien sûr. Voilà, j'avais mis Chukwueze parce que voilà, je pense qu'il peut faire encore un peu mieux et que Milan va avoir besoin de lui dans les rotations. On le voit. Hein, il faut qu'il perfectionne un peu, qu'il soit un peu plus épuré dans son jeu et un peu moins brouillon, plus décisif. Et petit parallèle, on reste à Milan. C'est vrai, Johan, que du côté de l'Inter, derrière Thuram, Lautaro, on a parlé dans le podcast spécial Inter, mais Sanchez, Arnautovic, alors Arnautovic qui s'est blessé, le pauvre, mais pour 5 semaines, donc c'est beaucoup. Mais c'est vrai que Sanchez, on sent bien qu'il y a un écart entre les titulaires et les remplaçants. Et ouais, est-ce que vraiment faire revenir Alexis Sanchez alors qu'il était parti il y a un an par la petite porte parce qu'il voulait plus de jeu, est-ce que c'était une bonne idée? Là encore, c'est tôt pour le dire, mais disons que pour l'instant, on sent qu'il y a un écart entre le duo d'attaque et les deux remplaçants, dont Arnautovic est actuellement blessé.
De mon côté, j'ai choisi encore une recrue, enfin, un duo de recrues. J'ai choisi, tu vois, c'est marrant parce que on a tous les deux choisi en équipe plaisir la Fiorentina. Et moi, dans mes recrues les plus décevantes, j'ai le duo d'attaquants de la Fiorentina. Balanzola, 1 but en 11 matchs. Lucas Beltran, 0 but en 11 matchs. C'est quand même pas des stats d'attaquants décisifs, clairement pas. La Fiorentina a quand même dépensé 22 millions d'euros environ pour ces deux attaquants. Souviens-toi, Guillaume, l'année dernière, on a déjà ce problème de neuf entre Cabral et Jovic, jusqu'à un certain point où Cabral avait pris un petit peu le lead en marquant des buts décisifs. Peut-être que ça arrivera aussi. Là encore, pas de conclusion définitive ou trop hâtive. Il faut que les deux s'habituent, même si Nzola avait déjà connu Italiano, donc il a sans doute moins besoin de d'emmagasiner des connaissances sur ce que demande Vincenzo Italiano. Mais oui, pour le moment, c'est pas suffisant en termes de buts. Dans une équipe qui marche bien, avec un jeu qui devrait favoriser justement Guillaume les attaquants, parce que c'est un jeu offensif qui amène souvent le ballon aux abords de la surface, qui crée des occasions pour les attaquants, mais pour le moment, c'est insuffisant. Donc, on verra s'ils réussiront à faire mieux que le duo Jovic-Cabral, parce que, mine de rien, la Fiorentina a quand même changé totalement sa ligne d'attaque, enfin, son poste de numéro 9, pardon, pas sa ligne d'attaque. Ils ont changé les deux joueurs, et pour le moment, il n'y a pas de différence sensible par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière. Donc, voilà, de mon côté, le duo d'attaquants de numéro 9 plus que d'attaquant de la Fiorentina, mon cher Guillaume. Voilà qui boucle ce podcast. Voilà, petit point après 8 journées. On le dit, hein, Guillaume, c'est nos premières observations.
Oui.
Peut-être voilà. Que dans 8 journées, ça sera différent sur. Peut-être qu'on aura une nouvelle équipe surprise qui aura bien progressé. Peut-être qu'on aura une équipe décevante qui aura emmagasiné les points, etc. Donc ça peut évoluer évidemment. Mais ça nous permet de balayer comme ça pas mal de clubs, de joueurs qu'on a pu voir sur ces. Sur ce début de saison et ses 8 premières journées en Serie A. Guillaume, on met les étoiles, bien sûr.
Toujours. Les 5 étoiles, évidemment. On le rappelle, c'est gratuit. C'est rapide. Ça prend combien de temps, Johan? 10 secondes 15 secondes, même pas.
Je pense que tu peux même le faire en 4 secondes.
Voilà. Bah voilà. Alors, les 5 étoiles, évidemment. Puis les commentaires aussi. Hein.
Ouais, bien sûr.
On peut commenter, on peut partager.
Ouais, également.
On a quelle plateforme?
Alors, on a tout, Guillaume. On a Apple Podcasts, on a Google Podcasts, on a Spotify, Deezer, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous pouvez même récupérer le flux RSS pour, si vous voulez avoir une obscure application qui vient de Géorgie ou d'où vous voulez. Ça marche également. On va se retrouver très vite, Guillaume. On va sans doute faire un question-réponse. Petit podcast où on va laisser les auditeurs nous orienter vers quelques sujets de leur choix. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, essentiellement sur Twitter, quand on fera le post d'annonce. Mettez vos questions en DM, tout ça, etc. sur le compte Calcio EPP, le compte Twitter Calcio EPP. Et on répondra à tout ça avec grand plaisir. Donc, passez une bonne trêve internationale sans football italien. Ah, il y a quand même la nationale, hein, attention.
Moment avec très important. Italie, hein.
Ouais, très important. Il y a Malte et ensuite il y a l'Angleterre. Et c'est très, 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 très important pour la qualif à l'Euro 2024. Hors de question, mon cher Guillaume. On se refasse une deuxième compétition d'affilée sans Italie.
Bah ça va, stop maintenant. On a déjà fait deux mondiaux. Et puis même, Johan, on est quand même champion d'Europe en titre.
Exactement.
Donc on va pas l'oublier, même si c'est vrai qu'on aurait tendance à le faire. Mais bon, si on pouvait au moins être présent pour tenter de défendre ce qu'on a remporté à Wembley.
Ça serait pas mal.
Ouais, voilà, exactement. Donc oui, très importante. Mais commencez à poser vos questions. Hein. Tu l'as dit, ouais. Johan, en DM, sous les tweets. Vous pouvez venir dans mes DM sur Twitter, ils sont ouverts, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, on les note et on y répondra dans le podcast.
Merci à tous et à très vite, ciao ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.